Clotaire d'Enfer. Dernier flash sur Clotaire Ier, Clotaire d'Enfer. Cram, son fils, gouverneur de l'Auvergne, plutôt tyran dans ses habitudes de gouverner, enlevant leur plus belle fille au sénateur, se révolte en 556. Son père lui pardonne cette rébellion une première fois. En 559, Cram se révolte encore, mais battu, il se réfugie auprès de Conobert, comte de Bretagne à Vannes. Son père le déloge, le poursuit, le vainc et le fait enfermer dans une cabane de bois alors qu'il cherche à gagner la côte. Cela se passe non loin de Nantes. Cram est torturé, puis on bloque toutes les sorties de la chaumière à laquelle on met le feu. Cram périt dans les flammes avec sa femme et ses enfants. Sur l'ordre de son père.
Elle possède le charme et l'élégance ensoleillée de l'Espagne. Brunehaut séduit tout ce qu'elle approche. Elle est belle, elle possède une grâce naturelle et elle est intelligente. C'est la fille cadette du roi des Visigoths d'Espagne, Athanagilde. Elle a été élevée à la cour de Tolède. Sigebert, le roi d'Austrasie, obtient sa main. Les noces ont lieu à Metz, en 566, capitale du royaume. Pour l'occasion, le poète Fortuna, évêque de Poitiers par la suite, devenu saint Venance Fortuna, trousse un joli poème où il loue ainsi la reine.
Ô Vierge que j'admire et qui plaira à ton époux, étincelante Brunehaut, plus brillante que le flambeau du ciel, autre fille de Vénus, toi qui es dotée de l'empire de la beauté, tu as dû, pour parvenir de Tolède à Metz, franchir des montagnes couvertes de neige.
Et Fortuna, visiblement, devant cette séduisante Espagnole, ne reste pas de glace. Brunehaut est raffiné. Chilpéric, le roi de la Neustrie du Nord, est fasciné par sa belle-sœur. Il se dit que, lui aussi, il aurait pu faire un mariage d'égale qualité. Voilà pourquoi il répudie sa première épouse, Audover, puis se sépare de sa favorite, l'esclave Frédégonde, qu'il renvoie aux cuisines. Libre, il demande la main de la sœur aînée de Brunehaut, Galswind. Il l'obtient et organise son mariage à Rouen en 567, un mariage aussi brillant que celui de son frère Sigebert, et d'autant plus réussi que Charibert vient de mourir, léguant au nouveau marié la Neustrie de l'Ouest et sa capitale, Paris. Elle ne recule devant rien, Frédégonde. Le crime ne l'effraie pas. Tous les moyens sont bons pour conserver le pouvoir. Pauvre, pauvre Galswind. La belle Frédégonde ne digère pas son retour au fourneau. Et elle retrouve bientôt le chemin du lit royal. Bientôt, Galswind est retrouvé étranglé dans son lit. Devinez qui a ordonné ce meurtre ? Certains ont prétendu que Frédégonde avait mis Chilpéric au défi de le faire, et qu'il le fit. D'autres disent que c'est Frédégonde elle-même qui étrangla sa rivale. Enfin, on pense plutôt qu'un esclave accomplit consciencieusement la tâche qu'on lui avait confiée, inaugurant ainsi une série de crimes qui rendent cette époque proche parente de ce qui se passe dans les thrillers politico-financiers assaisonnés de dérives des sentiments. Chilpéric se retrouve soudain veuf et libre. Il épouse Frédégonde ravie. Brunehaut veut alors venger le meurtre de sa sœur, Galswind. Chilpéric entre alors en guerre contre son frère Sigebert. Il voudrait lui grignoter un peu de son immense Austrasie. Mais Sigebert réplique et, avec ses féroces guerriers germains, vint et tue le fils que Chilpéric avait eu d'un premier mariage. Nous sommes en 575. Chilpéric vaincu, Sigebert à ses trousses, se réfugie dans la ville de Tournai avec femme et enfants. C'en est fait de lui, de sa puissance, de ses possessions. Sigebert triomphant s'installe dans la capitale de son frère, Paris. Il y fait venir sa femme, la reine Brunehaut, qui arrive avec ses deux filles et son fils. Les Parisiens lui font un triomphe. Ses chariots regorgent de trésors. La même année, Sigebert devient officiellement roi de Neustrie, dépossédant de son royaume son frère Chilpéric, au cours d'une cérémonie qui se déroule à Vitry-en-Artois, près d'Arras. Il y est allé seul, sans Brunehaut. Sa victoire est bien courte. Frédégonde, la terrible reine vaincue, qui rumine dans Tournai sa défaite aux côtés de Chilpéric, a dépêché deux sicaires, de sica en latin qui signifie poignard, qui plantent leur scramasax, le poignard franc, dans la poitrine de Sigebert. Sigebert meurt d'autant plus rapidement que Frédégonde avait pris soin d'enduire de poison la longue lame des scramasax.